Retrouvez le festival Les Embarqués les 15 et 16 juin au Parc de l'Hériposse en Normandie. Entre rêve et réalité, entre terre et eau, fêtez l'arrivée de l'été avec 2 jours de spectacles époustouflants. Théâtre, cirque, musique et danse, venez vivre le festival des Embarqués. Il vous entraînera au cœur de la nuit avec le spectacle pyrotechnique du célèbre groupe F et son ballet de drones. Spectacle ouvert à tous et gratuit. Tous les renseignements sur le site internet de l'agglomération Seine-Eure. Parking 5 euros.
Je m'en souviens pas bien. C'est compliqué. C'était le maquis, les FTP. Ici, il y avait, on a remonté de Tulle 51 Allemands qu'on a fusillés. On les a fait prisonniers à Tulle. On les a remontés ici. Je faisais partie du groupement qui a attaqué Tulle. On est parti la nuit à pied. À pied. D'ici, là, de Mémac. On a réussi à les enfermer dans l'école, quoi. Ils ne pouvaient pas sortir. Et alors, ils sont rendus. On les a fait prisonniers. Et on les a remontés à pied. On était une trentaine. On avait des fusils et mitrailleurs. Et des fusils. Des mitraillettes.
Vous vous rappelez de cette nuit?
Ah oui. Ah oui.
C'était l'été?
C'était au mois de juin 1944. Et on les a montés ici, à pied. Et on les a fuyés ici, au Vert, un village de Mémac. Parce qu'on ne pouvait pas les garder. Il y avait encore plein d'Allemands dans le coin là, qui patrouillaient. On ne pouvait pas les garder. On a reçu l'ordre de les tuer. Chaque maquisard tuait son Allemand. C'était comme ça, c'était la guerre. Qui c'est qui sonne?
Allez-y, allez-y.
Oui. Qui
c'est? L'infirmière.
C'est l'infirmière.
Oui. Bonjour.
Bonjour
madame.
Ah, oui.
Voilà. Et si je me trompe pas, madame.
Mémac, la fosse aux soldats de la Wehrmacht. Un documentaire de Maïlys Besserie et Yvon Croisier. Épisode 1. Juin 44.
Il y avait aussi une femme?
Oui, il y avait une femme française. Qui couchait avec un Allemand, qui collaborait, quoi.
Elle avait donné des gens, donné des résistants?
Non. Mais on l'a tuée quand même. On ne pouvait pas la garder non plus. D'abord, il fallait les nourrir, et puis les garder. Et quand ils voulaient aller faire pipi, il fallait de garder chez nous pour les amener faire pipi. Ou faire leurs besoins.
Edmond Réveil?
Oui.
C'était avant les événements de Tulle, ici, en Corrèze.
Oui.
Il y avait de nombreux maquis.
Oui.
Et il y a eu un certain nombre de massacres.
Oui.
Notamment dans la région de Tulle,
oui.
Puis après à Oradour.
Oui.
Les événements que vous racontez se passent en juin 1944,
oui.
Avant les pendus.
Oui, avant les pendus. Oui, avant les pendus.
Alors Gilles Chavant, je suis donc tulliste, membre du comité des martyrs. Ancien professeur d'histoire, depuis peu à la retraite. Alors ici, on est effectivement dans le bâtiment de la direction de l'usine qui occupe jusqu'à 2000-2500 salariés à l'époque, qui fabrique des armes de petit et de moyen calibre. On est dans une usine d'armement et pour les Allemands, c'est capital de posséder ce lieu. Donc on a deux garnisons sur Tulle, une à l'ancienne école normale et une caserne ici de la Wehrmacht. Au total, on a 1500 soldats allemands qui occupent les lieux. On a même une annexe de la Gestapo, la Zippo, qui occupe le centre-ville, l'hôtel Saint-Martin, pour ne pas le nommer, connu pour ce qui s'y est passé. Et on a une forte présence de Vichy, puisqu'on a également des contingents de la Ligue nord-africaine. Donc on est dans une ville cadenassée.
Alors, pour parler de l'attaque de Tulle, qu'est-ce qui se passe dans le début du mois de juin, suite au débarquement allié?
C'est-à-dire que, parallèlement à ce 6 juin, ce débarquement, l'ordre est donné par Londres, donc par De Gaulle, d'attaquer toutes les positions allemandes où qu'elles se trouvent. Donc la résistance corrézienne, armée secrète et francs-tireurs et partisans, ont pour ordre d'attaquer les garnisons allemandes, celles de Tulle en particulier. Pourquoi ? Parce qu'il y a des garnisons et que l'objectif, c'est d'empêcher que ces garnisons fassent mouvement vers la Normandie.
Il s'agit de s'attaquer aux soldats allemands de la Wehrmacht présents à Tulle.
Exactement.
Gilles Chavan, vous dites que l'armée secrète et les FTP étaient unis. Politiquement, ils ne sont pas du tout du même bord.
Bien sûr. Il y a des antagonismes, mais je pense que l'intérêt supérieur de la nation les commande à ce moment-là. Ils attaquent ensemble.
Comment vous êtes rentré dans la résistance? Vous vous rappelez, Edmond Réveil?
Ma mère n'était pas bien d'accord, mais en fait... Je suis allé quand même. J'étais encore à l'école. J'avais 20 ans, 45.
Qu'est-ce qui vous a décidé à entrer dans la résistance?
Ça s'est passé comme ça.
Vous étiez politisé?
Un peu, oui. J'étais aux jeunesses communistes. À ce moment-là, ça se faisait beaucoup. Les FTP. On était une cinquantaine à peu près, autour de mes macs, là. On était une bande de jeunes, on n'avait pas de situation encore, et puis pas de situation, on n'avait pas d'argent, mais il y avait une bonne camaraderie, on s'entendait bien, c'était bizarre, c'était quelque chose de merveilleux.
Vous avez des bons souvenirs?
Oui, très bons souvenirs. Il faut l'avoir vécu pour s'en rendre compte.
Hervé Dupuis, vous étiez professeur d'histoire et vous travaillez sur les réseaux de résistance en Haute-Corrèze?
Oui, et plus particulièrement sur les FTP. Le secteur de Meymac et de la Haute-Corrèze en général est vraiment un fief FTP où leur activité est extrêmement dense et intense.
Donc il y a des maquis un peu partout?
Alors il y a des maquis, des camps de maquis un peu partout, effectivement, autour de Meymac, aux environs de Bujas, Sornac, etc. Et pour préparer l'attaque de Tulle, d'ailleurs, avaient été organisés des investissements de villes.
Ça veut dire quoi, des investissements? Ça veut dire que les maquisards viennent et prennent la ville?
C'est ça. Temporairement, ils ont occupé la ville. C'est-à-dire qu'ils ont neutralisé les gendarmeries. Ils ont neutralisé les services des PTT pour empêcher les communications téléphoniques. Éventuellement, dans les mairies, ils ont pu récupérer des tickets d'alimentation. Et puis dans les gendarmeries, ils ont pu récupérer des armes s'ils ne l'avaient pas déjà fait auparavant. C'était une façon pour eux de préparer leurs troupes sur... des actions très locales à ce qu'ils voulaient réaliser à une plus grande échelle au niveau de la ville de Tulle. Donc suite à ces opérations, le 95e régiment de sécurité qui avait plusieurs compagnies cantonnées à différents endroits de la Corrèze a déclenché une opération le 3 juin.
Mais c'est la Wehrmacht à ce moment-là.
Oui, là on parle de la Wehrmacht effectivement. Sûrement en réponse à ces investissements, à ces attaques de cités par les FTP. Et au cours de cette opération, ils ont capturé ou tué plusieurs responsables FTP.
Donc il y a déjà un contexte de représailles, d'aller-retour entre des exécutions côté allemand.
C'est
et
ça.
Les FTP ont perdu un certain nombre des leurs.
Les FTP opèrent régulièrement des attentats. soit contre l'armée allemande, soit contre les collaborateurs, les dénonciateurs. En réaction, les Allemands, à leur tour, opèrent des actions répressives. Et c'est l'escalade et une montée de la violence et de la brutalisation qui va trouver son apogée avec ce que vont commettre les Allemands à Tulle et à Oradour.
Moi, j'étais agent de liaison. Je faisais la liaison entre les camps, les différents camps de maquisards.
Alors, ça consistait en quoi, faire la liaison ?
Apporter des ordres, donner des informations. On vivait dans les montagnes, quand même.
Vous rentriez pas chez vous ?
Non. Non, on rentrait pas chez nous.
Vous déplaciez comment ? À vélo ?
En vélo, oui. En vélo. Tout le monde était pour le maquisard ici, toute la population. Et les paysans fournissaient la nourriture. On tuait des veaux, des moutons.
Vous vous rappelez quand est-ce qu'on vous a demandé de partir à Tulle, au pensionnat de jeunes filles, à l'école normale ?
Ah, c'était le soir, oui. On nous a dit qu'on allait attaquer l'école normale. Les filles, on est parti à pied, on est arrivé au petit matin à Tulle et on a attaqué l'école des filles. L'école normale était occupée par les Allemands, c'était leur caserne quoi.
Ils attaquent le 8
au matin
l'école normale, c'est-à-dire la partie haute de la ville. Ils n'attaquent pas ici, ils n'attaquent pas la garnison de la manufacture. Ils attaquent l'école normale. Ils sont légèrement au-dessus. C'est une ville de colline, c'est une ville de vallée. Or, ils sont en position dominante. Les Allemands sont dans la vallée. Ils subissent. Et si vous voulez, ils réussissent à mettre le feu au grenier de l'école normale, ce qui va indirectement les aider parce que les Allemands, bien sûr, sont pris au piège entre le tir nourri des résistants et l'incendie qui se déclare dans le bâtiment. Et là, on a des documents pour vous montrer. On a des photos du bâtiment en feu. La bataille fait 40 morts côté allemand. Côté résistance, on n'a pas de données chiffrées. Ce qui est certain, c'est que les blessés allemands seront conduits à l'hôpital de Tulle. Il n'y a pas d'émasculation, comme on a pu l'entendre. Il n'y a pas de torture, comme on a pu l'entendre. Le 8 au matin, la victoire a lieu. Le quartier nord de Tulle sont libérés. C'est un petit peu l'euphorie dans la ville. Mais une euphorie très courte, très brève, parce qu'en fait, le soir même, la division Das Reich arrive par la route de Brive. Et elle arrive avec des blindés.
Au moment de l'attaque de Tulle, c'est-à-dire au moment où les résistants essaient de libérer Tulle de l'armée allemande, est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils ont l'information comme quoi la Das Reich,
absolument
cette
pas.
Unité
ça,
SS, c'est,
on est catégorie.
Cette division
non,
SS est en marche.
Ils ne le savent pas. Ça ne veut pas dire que s'ils l'avaient su, ils auraient rétropédalé, mais ils ne le savent pas.
Donc, on est sûr de ça, on a des documents.
Oui, documents et témoignages. On est certain que l'attaque de Tulle n'est pas liée à la Das Reich en aucun cas.
On les a pris à l'école normale des filles. On les a fait prisonniers. Parce qu'ils étaient enfermés dans l'école normale des filles. Ils ne pouvaient pas sortir. Et alors ils sont rendus. On les a fait prisonniers. Et on les a remontés à pied. On a marché toute la nuit. On a pris des chemins de traverse.
Et vous avez réussi à faire en sorte qu'ils vous suivent ?
Ah ben, et bien sûr qu'ils nous suivaient. On les encadrait. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils étaient désarmés et tout. Et on a remonté ici, on les a gardés deux ou trois jours. Et puis après, on les a fusillés.
Pierre Vigneault, journaliste à la montagne à Brive en Corrèze. Et j'enquête depuis 10 mois sur l'affaire de Mémac en Corrèze depuis les révélations d'Edmond Réveil.
Je vous laisse m'indiquer la route pour mes Macs. Est-ce que je mets le GPS?
Mais du coup, ça nous fait passer par le centre-ville de Tulle et je peux vous montrer les différents endroits où sont lieu les combats, en fait, dont on parle, quoi.
Bah oui, très bien.
Du coup, là, déjà, à la gare, vous êtes sur un premier lieu de crime de guerre. Il y a les garde-voies qui, pendant une accalmie, ont voulu sortir. Et ils sont fait tirer dessus par l'armée allemande et ça a fait une vingtaine de morts. Et ça a été un des premiers crimes de guerre commis à Tulle en juin 44. Donc là, vous pouvez prendre à droite, faire le tour de la médiathèque et après on reprendra à gauche pour repartir vers le centre. Donc là-bas, c'est le quartier de Souillac. C'est là où il y avait une première zone de combat entre FTP et armée allemande. C'était pas la Dice Reich à ce moment-là. La Dice Reich, elle arrivera qu'à la fin de la bataille de Tulle.
Ça, c'est la Dice Reich, faut préciser.
La Dice Reich, c'est la division blindée nazie qui va commettre le massacre de Tulle le 9 juin et qui, le lendemain, le 10 juin, fera le massacre d'Oradour-sur-Glane en Haute-Vienne. Et si vous regardez bien sur le tribunal de Tulle, il y a des impacts de balles de cette bataille qui sont encore visibles. Il faut vraiment s'arrêter à regarder sur les colonnes, mais il y a encore des impacts de cette époque-là.
Donc là, on va faire le trajet.
Là, je vous amène dans le trek, en fait, où... devant l'ancienne école normale de jeunes filles, où était retranchée une partie des Allemands qui formera le gros du contingent qui ensuite sera fait prisonnier et qui partira à Meymac.
Je tourne à gauche ?
Alors je crois que c'est celle d'après où on peut tourner à gauche. Et là, je crois que vous avez la priorité. Vous pouvez y aller.
Malheureusement, donc, la division SS arrive. Et elle arrive avec des blindés. Et ça fait un bruit incroyable, à tel point d'ailleurs que même certaines personnes pensent que ce sont les Américains qui arrivent. Mais malheureusement, la division opère très vite, boucle tous les accès de la ville et font ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire fermer un village, en l'occurrence une ville, par toutes les voies d'accès. Et les résistants s'en vont, mais c'est un repli stratégique et en aucun cas une forme de lâcheté, parce que tout simplement, ils ont l'habitude de se battre à 1 contre 4, à 1 contre 5, et quand vous battez dans telles conditions, vous ne cherchez pas à comprendre quand on passe à 1 contre 20.
Ils partent avec des prisonniers, pour certains.
Oui, il y aura des prisonniers.
J'ai le savant.
Il y aura des prisonniers allemands de la Wehrmacht. Évidemment, ceux qui se sont rendus, ils seront amenés.
Dans les maquis.
Ils seront amenés dans les maquis. Voilà, et la population, oui, la population reste seule, face à cet occupant qui arrive et qui va être différent de la Wehrmacht. Alors, deux mots sur cette Dice Reich, si vous le permettez. C'est l'une des 38 divisions SS qui ont été créées par Himmler. Et cette division est connue, très connue, pour avoir fait des exactions majeures en Europe de l'Est. On est à 5200 villages brûlés, parfois brûlés quatre fois. Le plus connu étant Katyn, en Biélorussie, non pas en Pologne, et ils sont spécialisés dans la répression des civils. C'est pratiquement eux qui font l'essentiel de la répression en Ukraine et en Biélorussie. Leur technique de terreur, pour eux en particulier, c'est la pendaison. Et nous avons des photos qui illustrent ces pendaisons, soit sur des poternes, soit sur des balcons. Donc si vous voulez, cette division, elle revient en France pour se mettre au vert, mais aussi pour s'étoffer. C'est une division de 18 000 hommes, il y a 2500 vétérans, et on va y inclure 9 000 jeunes recrues de 16 à 20 ans, qui sont essentiellement des Alsaciens, des Malgré-nous, ce qu'on va appeler des Malgré-nous, ce qui posera problème par la suite.
Et, c'est des Malgré-nous, c'est des enrôlés de force.
Voilà, c'est des enrôlés de force.
Ils sont tous enrôlés de force, les chavons.
Nous estimons, nous, que la majorité d'entre eux sont enrôlés malgré eux. Donc, de force, oui, quelque part. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Himmler vient leur rendre visite le 11 mai 1944. Et cette visite, c'est malheureusement pour eux une sorte de dopage. Ça va leur donner une impulsion supplémentaire. En fait, il va falloir refaire ce qu'ils savent faire. Et il va falloir le faire sur un secteur que Lamerdin, qui est le général SS, détermine de manière très précise dans des ordres qui sont donnés le 5 juin, le 5 juin 1944, avant le débarquement. Il y a un ordre qui est donné, qui est écrit, signé Lamerdin. Il faut arrêter 5000 suspects dans un secteur qui va de Aurillac, Brive-Cahors. Il nomme Tulle le 8 juin.
C'est quoi les suspects, Gilles Chavan ? Qu'est-ce qu'on appelle
les suspects ? Eh bien, ce sont des gens qui sont censés être résistants ou supposés être sympathisants des résistants. On ne va pas faire le tri. Hein. On est dans une opération spéciale. Ils vont se faire la main tout le mois de mai sur le Tarn-et-Garonne, pour citer Quélus, par exemple, pour citer Fraissinet-le-Gela, qui va donner le vieux fusil. Hein. Donc, si vous voulez, ils se font la main, parce qu'il faut que ces jeunes recrues apprennent, je cite Lamerdin, le goût du sang. Mais en fait, c'est simplement une sorte de répétition générale avant l'offensive qui va être menée sur ce qu'ils appellent la Petite Russie, c'est-à-dire la zone rouge, Tulle.
Roland Gaudiot, je suis le président du comité des martyrs de Tulle, bien évidemment. Comme nous le disait Gilles Chavon, la division d'Assreich arrive à la grande surprise des maquisards. Et c'est ce que disait tout à l'heure Gilles, si les maquisards avaient su que la d'Assreich était là, venant de Brive, jamais, on peut imaginer que jamais ils auraient effectivement attaqué la division qui se trouvait à l'école normale de jeunes filles. Ceci étant donc, la d'Assreich arrive le 8 au soir et venant d'apprendre qu'il y a eu à l'école normale, l'attaque de l'école normale avec des tués, considère qu'il va y avoir représailles. Et dès le lendemain matin, le 9 à l'aube, la terreur commence dans la ville de Tulle. Ça veut dire qu'il y a une rafle dans toutes les maisons, les appartements. Les SS raflent les hommes et les amènent, effectivement les rassemblent avec le fameux tri, le tri arbitraire fait par Walter Schmalt, qui effectivement fera trois colonnes, dont la colonne du milieu, la fameuse colonne où effectivement il y a eu 99 pendus.
Donc ils prennent au hasard dans les maisons
complètement au hasard. Contrôle papier. Alors évidemment, bon nombre ne se méfient pas. Contrôle papier, bon, voilà.
Pendant ce temps, on tend des cordes dans la ville.
Des cordes sont installées, évidemment, sur les balcons, les fameux balcons de Tulle, candélabres, un peu partout, en partant, effectivement, d'ici, donc, du quartier de Souillac, pour terminer avenue de la Gare. Voilà. Et où, effectivement, il y a eu 99 martyrs, 99 pendus. J'ai d'ailleurs une histoire personnelle qui fait que mon oncle a été pendu. Nous habitions à la gare, mon père me l'a raconté, effectivement j'étais petit moi à l'époque, mais mon oncle, donc le beau-frère de mon père, a été pendu devant ses yeux. C'est-à-dire que nous habitions juste en face et mon père a vu son beau-frère se faire pendre.
Et votre mère, son frère.
Et donc ma mère, c'était son frère, mais ma mère ne l'a pas vu parce que ce jour-là, elle était souffrante. On m'a dit, elle me tenait dans les bras. Elle était souffrante et mon père a bien sûr voulu cacher cet atroce fait à ma mère. Et mon père m'a raconté les faits qu'après le décès de ma mère.
Car ma mère n'a jamais su.
Elle a su évidemment que son frère avait été pendu le soir, mais elle n'a pas su que mon père avait vu devant ses yeux.
Et de mon réveil, est-ce que vous vous rappelez quand il y a eu les événements de Tulle ?
Oui.
Comment vous les avez appris ?
On l'a pas su tout de suite. On l'a pas su tout de suite parce que à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'informations qui circulaient. Même, on n'est pas loin de Tulle pourtant, mais on l'a pas su tout de suite. Hein.
Il faut imaginer que les maquisards qui ont tenu la ville que quelques heures se retrouvent à l'arrivée de la Dachshund obligés de quitter la ville avec ces prisonniers allemands qu'ils ont fait à l'école normale. Donc ils empruntent cette route, la Croix de Barre.
Sur les hauteurs. Hein.
Là, on est sur les hauteurs de Tulle. Là, ils vont faire, 70 km à pied. D'abord en direction du nord, Nave, le Lonzac. Ils vont ensuite prendre direction l'est, vers le plateau de Mille Vaches, en prenant une ancienne voie romaine. Et ils vont aller jusqu'au lieu dit d'Anco à Mémac.
Alors nous, on suit ce qui se passe à Mémac, donc du côté des Maquisards, avec leurs 50 prisonniers allemands. Peut-être c'est 47
En fait, le décompte, il est assez vague. C'est une soixantaine, en fait, qui part de Tulle. Parce qu'entre le moment où ils partent de Tulle, le moment où ils arrivent à Nave, ils en perdent en chemin. Ils vont tenter des soldats allemands qui vont réussir à s'évader. Il y en a qui vont être blessés, qui vont abandonner à la Croix de Barre, par exemple. Ils vont arriver comme ça jusqu'au Vert, entre le 10 et le 11 juin 44.
Plein de problèmes, Pierre Vigneault, les prisonniers pour les Maquisards, parce qu'ils n'ont pas de prison, ils n'ont pas de lieu pour les retenir.
C'est un vrai problème logistique. Ça fait 40 bouches supplémentaires à nourrir aussi. C'est quand même pas rien. D'ailleurs, quand ils vont arriver à Nave, ils tuent un veau pour pouvoir nourrir tout le monde. C'est un peu dans ce contexte toujours de désorganisation totale, quoi. Donc oui, on est dans un paysage typiquement corrézien, vallonné, boisé, avec des champs, des ruisseaux, des petits chemins. Et c'est aussi ça qui fait la force de la résistance en Corrèze, c'est que c'est plein d'espaces, de bois, qui facilitent en fait l'installation de camps de résistants pour vivre dans la clandestinité, en fait.
On a reçu l'ordre de les tuer. C'était notre chef, Hannibal. C'était son nom de guerre. On avait tous un nom de guerre.
Vous appeliez comment, vous ?
Papillon. Parce que, comme j'étais agent de liaison, c'était Papillon. Et notre chef de groupement, c'était Hannibal. Et c'était un Alsacien. Son vrai nom, c'était Fertig. Et on les a fuyés ici.
Et du coup, vous les avez enterrés sur place ?
Oui. On leur a fait faire leur trou. Deux trous. Deux tombes. Il y a eu deux fosses. C'était comme ça, c'était la guerre.
Mémac, la fosse aux soldats de la Wehrmacht. Épisode 1, juin 44. Un documentaire de Maïlys Besserie et Yvon Croisier. Avec Edmond Réveil, Gilles Chavon, Pierre Vigneault, Roland Gognaud et Hervé Dupuis. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, attachée de production Sylvia Favre.